VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francis Comi, Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. En République démocratique du Congo, la fourniture d'eau va être interrompue pendant les fêtes de fin d'année à Kinshasa, faute de moyens financiers et matériels. C'est ce qu'a annoncé dimanche le syndicat de l'entreprise publique de distribution d'eau dans la grande métropole de 10 millions d'habitants. Les détails avec John Lindon.
Nous demandons à la population kinoise dès la semaine prochaine de constituer des réserves d'eau car nous ne serons pas en mesure de leur assurer la fourniture d'eau pendant cette période des festivités de fin d'année, a déclaré Alain Senengue, responsable de la délégation syndicale de la Régie des eaux, dans un message audio distribué aux médias. Nous n'avons plus d'intrants de traitement d'eau. Nos machines tombent en panne du jour au lendemain et les salariés de la Régie des eaux accusent 3 mois de retard de paiement de salaire, a expliqué M. Senengue. Selon lui, le ministre des Finances refuse de libérer un montant de 5,4 millions de dollars de dettes de consommation d'eau par les institutions publiques qui pourraient permettre à l'entreprise de fonctionner. Mégapole d'environ 12 millions d'habitants, Kinshasa connaît souvent des problèmes d'approvisionnement en eau. Plusieurs quartiers ne sont pas reliés au réseau de distribution de la Régie des eaux, des habitants recourent à l'eau de pluie, de rivière ou de pluie pour l'usage quotidien.
Tuerie dans l'est de la RDC, l'Église catholique dénonce des complicités au sein de l'armée et de la mission onusienne MONUSCO. La commission justice et paix de l'archidiocèse de Beni-Boutembo, dans la province du Nord Kivu, lance un cri d'alarme dans un document adressé à la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo. Edi Sango a joint l'évêque de Beni-Boutembo, Mgr Melchisedek Sikuli-Paluku, pour des détails sur ce document.
La zone où se passe tout ce massacre, et encore aujourd'hui, c'est une zone opérationnelle. Il y a 22 000 militaires, ce qu'on nous dit, et ils travaillent. Mais on ne comprend rien qu'en un mois, depuis qu'on a lancé ces opérations, on est massacré, pratiquement égorgé. Je ne sais pas si vous avez vu des images, on a dépassé le nombre de 200 personnes, ça parlait des autres.
Vous faites donc état des complicités, mais à quel niveau les situez-vous? Parce que vous parlez de la MONUSCO, vous parlez aussi des forces armées de la République démocratique du Congo.
Oui, il y a des généraux, on a entendu des noms, mais qui sont quand même déjà, ils étaient fichés internationalement. Alors on dit comment, pourquoi on ne parle pas de ça et qui se retrouverait ou qui passe dans la région. Et on voit que la situation, la population s'attendait à une accalmie, mais c'est chaque jour que vous apprenez qu'on a tué, même presque dans les villes où ils sont encore. Et la population donc a été excédée les semaines passées. Vous aurez certainement appris, des groupes se sont constitués même pour demander à la MONUSCO de partir parce qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Alors ils viennent à travailler en collaboration avec le gouvernement, l'État congolais. Qui fait quoi finalement?
Vous dénoncez aussi les maï-maï quelque part.
Il y a des groupes qui seraient prêts à intégrer l'armée, d'autres ne pas certains. Nous sommes venus de l'Ouest. Je parle de Walikale, par exemple, qui s'appelle NDC. L'impression qu'on a eue, c'est qu'ils sont comme en intelligence avec les FRDC, parce que partout ils sont passés, je n'ai pas appris qu'il y a eu des affrontements. Il faut subir aux populations qu'ils disent protéger. Pratiquement, un peu de corvée, doivent payer de l'argent chaque semaine, chaque mois.
Et ceux-là sont des Congolais?
Nous avons dans la province du Nord Kivu, Sud Kivu, et même par ailleurs en Congo, nous avons reçu ceux qui sont refusés du Rwanda et sont dans la région, sans qu'on sache peu trop ce qu'ils font. Ils ont été bien accueillis, mais parfois, on a vu qu'ils pouvaient se transformer aussi en ennemis de ceux qui les ont accueillis, avec même tendance de rechercher à chasser les autochtones à peu près pour habiter. Nous avons de l'autre côté ce qu'on appelle l'IDF, mais nous continuons à parler des présumés IDF, compte tenu de ses forces à présent internationales et FARDC, que ça puisse exister comme ça au 10 ans.
L'évêque de Beni-Boutembo, Mgr Melchisedek Sikuli-Paluku, au micro de Edi Sango.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, fin de la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique, dans sa dernière étape à Niamey au Niger hier. Le chef de l'État français et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou se sont voulus mobilisateurs pour renforcer la lutte contre les djihadistes au Sahel. Ils ont participé à une cérémonie d'hommage aux 71 militaires nigériens tués ce mois-ci par des djihadistes. Et Emmanuel Macron a une nouvelle fois réclamé de la clarté au gouvernement sahélien sur la présence militaire française et la lutte contre le djihadisme, reprenant des propos qui avaient généré de la tension entre la France et ses partenaires. Ce que j'attends, c'est une prise de responsabilité, c'est un discours de vérité. Si cette clarté politique n'est pas établie, la France, dans certains pays, en tirera toutes les conséquences, a averti le président français. On écoute Emmanuel Macron.
Le président Issoufou, comme le parti présidentiel, ont très clairement rappelé dans quel cadre la France intervenait. Celui d'une demande expresse de l'État nigérien et donc de celles et ceux qui portent la souveraineté du peuple nigérien et qui considèrent qu'ils ont besoin du soutien de la France, comme vient de le dire le président, dans le cadre de l'opération Barkhane. J'attends la même clarté de tous les dirigeants. La même clarté. Je vois, en effet, dans trop de pays prospérer, sans condamnation politique claire, des sentiments anti-français. Je ne peux pas accepter d'envoyer nos soldats sur le terrain, dans des pays où cette demande n'est pas clairement assumée et où ils interviennent dans un cadre qui ne correspond pas à la dignité que nous leur devons. Dans ce contexte, soyons clairs, si l'opération Serval a eu un cadre juridique, politique extrêmement clair au moment de l'attaque, assumé par l'État malien comme la CDAO, aujourd'hui l'opération Barkhane a une forme d'ambiguïté. Et donc il est nécessaire que les cinq États du Sahel clarifient politiquement, avec la France, le cadre politique de ce que nous conduisons militairement pour être beaucoup plus efficaces et lever toutes les ambiguïtés qui aujourd'hui prospèrent.
Le président français Emmanuel Macron au Niger. Avant son escale à Niamey, le président Macron s'était également recueilli en hommage à des soldats tués, cette fois-ci à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire et ancienne capitale de la rébellion. 9 soldats français et un américain y avaient été tués en 2004 par un bombardement de l'armée ivoirienne. Un épisode charnière de la décennie de crise en Côte d'Ivoire et un dossier qui garde encore de nombreuses zones d'ombre. Les présidents Macron et le chef de l'État, le président Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont dévoilé un stèle et déposé des gerbes aux couleurs ivoiriennes et françaises. Retour à la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Nigeria, une trentaine de djihadistes affiliés au groupe État islamique ont tué 6 personnes et ont enlevé 5 autres dimanche dans le nord-est du pays. Le point avec Mahamadou Oumfa.
L'attaque s'est produite près du village de Gassarwa, à 100 km au nord de la capitale de l'État de Borno, Maïdougouri. Les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont arrêté les véhicules et exigé de connaître l'identité de leurs passagers. Ils ont tué 6 personnes et en ont enlevé 5 autres, dont une femme, a raconté à l'AFP Haruna Ashiru, un conducteur de car dont des passagers figurent parmi les victimes. Ils ont spécialement visé les membres du personnel de sécurité, les paramilitaires, les éleveurs peuls et les chrétiens, a-t-il ajouté. Plusieurs des victimes ont été tuées par balles, tandis que d'autres ont été forcées de se mettre à genoux et ont eu la tête tranchée, a poursuivi ce témoin. Au total, 3 éleveurs peuls, dont 2 femmes, 2 commerçants chrétiens et 1 policier, ont été abattus par les assaillants. En 10 ans, l'insurrection djihadiste au Nigeria et sa répression ont fait 35 000 morts et environ 2 millions de déplacés.
Au Mali, fin dimanche du dialogue politique mené à Bamako pour essayer de trouver une solution à la crise provoquée par les attaques djihadistes dans le pays. Les participants, membres de la société civile et de la classe politique réunis depuis le 14 décembre, ont préconisé la tenue d'élections législatives avant mai 2020 et l'organisation de référendums sur une révision de la Constitution nationale. Et pour terminer, en Libye, le chef de la diplomatie grecque, Nikos Dendias, a effectué hier un périple éclair dans le pays sur fond de tensions créées par la signature d'un accord maritime entre la Turquie et le gouvernement de Benghazi et le gouvernement de Tripoli. Nikos Dendias s'est notamment rendu à Benghazi dans l'est de la Libye où il a rencontré le maréchal Khalifa Haftar, puis au Caire et à Chypre. Parallèlement, Athènes a annoncé que l'accord sur le gazoduc Ismed sera signé avec Chypre et Israël le 2 janvier. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.